Le revenu minimum garanti, un bon outil pour réévaluer mon rapport au travail et à l'argent. Par Martin Thibault, bénéficiaire d'un revenu de base en Gaspésie dans le cadre du projet de l'ARPRE. L'historien et auteur du très populaire livre « Sapiens », Yuval Noah Harari, résume l'argent en ces quelques mots. L'argent est l'histoire la plus aboutie que l'humain ait jamais inventée et racontée, parce que c'est la seule histoire à laquelle tout le monde croit. Tout le monde ne croit pas en Dieu, tout le monde ne croit pas aux droits humains, tout le monde ne croit pas au nationalisme, mais tout le monde croit à l'argent et au billet vert. Avec un ami en Gaspésie, on s'est amusé à malmener cette histoire, en coupant des billets de banque pour en faire, disions-nous, une monnaie alternative, le demi. C'était notre version de l'histoire. Plusieurs personnes ont été intriguées par cette histoire. Mais surtout, à peu près aucune d'elles n'était indifférente au fait de prendre une paire de ciseaux et de couper un billet de 20 $ en deux. La plupart des réactions étaient viscérales. Les gens tremblaient, suaient ou riaient nerveusement. On a vite réalisé à quel point notre rapport à l'argent, cette entité fictive, n'était pas clair. Quand mon premier enfant est né, il y a 12 ans, j'avais 40 ans. J'avais été pauvre la grande majorité de ma vie avec des revenus allant entre 6 000 et 20 000 $ par année. Dans la trentaine, expatrié dans le Grand Nord canadien, j'ai aussi pu expérimenter l'opulence financière. Lorsque j'ai quitté mon dernier emploi payant, à 40 ans, j'ai annoncé avec une pointe d'humour à mon patron du temps que je prenais ma retraite. 12 ans plus tard, maintenant bénéficiaire d'un revenu minimum garanti depuis 6 mois, je reçois chaque semaine, sans aucune obligation, assez d'argent pour payer tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Ça vous organise une machine à penser, ça. Lorsque j'ai pris ma retraite humoristique à 40 ans, ma conjointe de l'époque et moi avions pu mettre de côté environ 30 000 $. Et nous n'avions aucune dette. Une petite roulotte pour nous abriter, puis éventuellement une yourte sur le terrain d'amis. Pendant 3 ans, on a vécu avec ce 30 000 $, on a appris à connaître notre nouvelle communauté gaspésienne, puis on a passé tout notre temps avec nos deux jeunes enfants. Avec si peu d'argent, on a vite appris la valeur de ce dont on avait vraiment besoin pour vivre. Puis au fil du temps, l'argent, cette fiction dont parle Yuval Noah Harari, fut de plus en plus relégué à son rang d'outil. Outil économique, au même titre que d'autres outils comme les systèmes d'échange locaux ou la poignée de main. Avec la réalisation de ce qu'est vraiment l'argent et de son utilisation minimale pendant 3 ans, est venue une remise en question en profondeur de mon rapport au travail. Particulièrement, mon rapport au salariat. Si j'avais besoin d'aussi peu que 10 000 $ pour bien vivre par année, mais que la très grande majorité des emplois étaient des emplois à plus de 30 heures par semaine, un aspect souvent non négociable, c'était quoi ma place dans la société? Après 9 ans de guerre psychologique avec moi-même, à résister à l'emploi à temps plein et plus particulièrement au travail pour faire de l'argent, me voilà maintenant pour toute une année, d'une certaine façon, indépendant de fortune. Si pendant 9 ans, je me suis entraîné à apprivoiser le salariat, ou plus exactement à résister au salariat, puis à traiter l'argent pour l'entité fictive qu'il est, aujourd'hui, mon nouveau combat, c'est d'essayer de vivre avec l'image qu'on se fait d'une personne recevant de l'argent sans rien faire. D'abord, est-ce que c'est possible de ne rien faire? La réponse est bien évidemment non. Alors, qu'est-ce que je fais de mon temps? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je suis rentable pour la société? Explorons la question mathématiquement. Pour l'année 2020, j'aurais coûté à l'État environ 26 000 $. Dans la réalité, puisque le projet pilote auquel je participe n'est pas subventionné par l'État, vous pouvez dormir tranquille, vous n'avez pas eu à payer personnellement pour cette expérience. Ce sera peut-être plus facile de cette façon d'en apprécier les résultats. Pour vivre en Gaspésie dans une petite maison avec une petite voiture, être connecté à Internet et nous nourrir mes enfants et moi, ça me coûte chaque année 21 200 $. Le projet pilote m'apporte 19 500 $ plus les transferts gouvernementaux d'environ 7 500 $. Il me reste donc environ 4 000 $ pour les imprévus comme la dentiste, les réparations à la voiture et à la maison, etc. On s'entend que je ne roule pas sur l'or et que ce n'est pas avec ces montants-là que je vais me coller de l'argent de côté pour faire le tour du monde. C'est un revenu de base qui m'assure que je puisse vivre au minimum dignement. Puis ça marche. Est-ce que je suis utile ou rentable pour la société? Monétairement parlant, 100 % de l'argent qui arrive d'un côté ressort immédiatement de l'autre. En d'autres mots, je fais rouler l'économie. Toutefois, il serait légitime de se demander de quelle économie il s'agit. Le gros de cet argent retourne à la Caisse populaire des jardins sous forme d'hypothèques ou d'intérêts. Hydro-Québec en reçoit une bonne partie, ainsi que la municipalité en taxes foncières. Dans un monde idéal, tout cet argent retournerait dans des entités locales, ou à tout le moins des entités qui n'ont pas comme principal objectif l'enrichissement de quelques actionnaires ou PDG au détriment de la collectivité. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, en gros, tout cet argent que je reçois gratuitement retourne immédiatement dans l'économie pour nourrir d'autres bouches, du moins on l'espère. Mon petit budget nourriture va autant que possible vers les entreprises locales. C'est déjà ça. Au quotidien, ce que ça veut dire concrètement, c'est que je peux choisir de quelle façon je contribue à la société. Dans un premier temps, ça me permet de prendre le temps d'être avec mes enfants qui ont maintenant 9 et 12 ans. Leur mère habite de l'autre côté du continent, alors on fait une garde partagée aux 4 mois. J'ai donc dû réinventer une forme d'éducation hybride, école-maison, ce qui demande un certain temps. Le revenu de base me donne ce temps-là. J'ai aussi le temps de ne pas être à la course. Ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais ayant déjà connu la vie avec pas de temps pour rien faire, il y a là une forme de richesse que souvent seules les personnes retraitées plus âgées apprécient, en ajoutant souvent tristement « si j'avais su ». Ne pas être à la course, ça veut dire utiliser beaucoup moins la voiture, pouvoir marcher ou faire du vélo pour aller faire mes courses. Courses auxquelles j'ai eu le temps de réfléchir, ce qui évite les achats compulsifs. Je jardine. Loin d'être autosuffisant en nourriture, le temps que je mets à jardiner me semble un bon investissement dans le futur lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir un peu. Un temps que j'ai. Peut-être me demanderez-vous ce que j'apporte concrètement à la société. Outre avoir le luxe de l'oisiveté que défendait le philosophe Bertrand Russell, comme étant la possibilité de vivre une vie heureuse nous permettant d'être ainsi plus enclins à la bienveillance qu'à la persécution et à la suspicion, recevoir un revenu de base, ça me permet d'être disponible dans ma communauté, aider des amis, mais aussi des inconnus puis des entreprises du coin. Et finalement, mais non le moindre bénéfice, créer. Créer de nouveaux projets concrets ou en améliorer d'autres, mais aussi créer du bien-être et du bonheur. J'ai pas assez d'argent pour le gaspiller. Celui que j'ai doit être utilisé intelligemment, ce que le temps libre dont je dispose me permet de faire. Suis-je un plus ou un moins pour la société? Il faudrait le demander aux gens de ma communauté. En tout cas, de mon côté, je me sens libre et je me sens heureux. Et j'ai le sentiment qu'à la fin de ma vie, si elle continue comme ça, je pourrais fermer les yeux sans le triste constat que nous partagent trop souvent nos aînés juste avant de partir, avec cette impression de « j'aurais donc dû ».